moi je suis pas un peu au Cassin oriental. J'ai réfuté totalement ce que
tu dis. Moi j'ai été de vous voici au Cassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Conçu hier mercredi à Kinshasa de l'atelier de validation de la stratégie nationale de transfert des compétences et des ressources aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Cet atelier a permis la validation de cette stratégie qui est la voie du gouvernement pour réaliser le transfert de ses compétences. Notons que c'est depuis le 1er août 2008 que la loi sur la décentralisation a été promulguée. Une loi qui fixe les règles régissant les rapports des entités territoriales décentralisées avec l'État et les provinces, qui détermine également les ressources humaines et financières imparties aux entités. Tout ceci dans le souci d'assurer aux provinces leur autonomie et faciliter ainsi le développement à la base. Cette démarche fait-elle, selon vous, faciliter l'autonomie des gestions des provinces? Pour vos interventions en direct, appelez-nous au 081 890 43 39 par Internet à l'adresse a@radiocapi.net. Mais aussi un commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs et les Bienvenus. Nous allons en parler avec M. Makolo Jibikilaï, coordonnateur national de la cellule technique d'appui à la décentralisation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Paroles aux Auditeurs. Où que vous soyez, Paroles aux Auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, lors de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 2h, et mercredi de 10h, lors de Kinshasa.
La République démocratique du Congo a retenu la décentralisation comme mode d'administration du pays, avec les entités territoriales décentralisées, avec aussi les provinces. Tout cela a été coulé dans la loi fondamentale, la Constitution de la République de 2006. Voilà, la Constitution de la République de 2006, trois textes de loi ont suivi, n'est-ce pas, cette Constitution. Il s'agit de la loi sur la libre administration des provinces, la loi portant statut, bien sûr, la loi portant administration des entités territoriales décentralisées et leurs relations avec les provinces et aussi la conférence de gouverneurs. Tous ces textes juridiques, c'est pour la mise en œuvre de la décentralisation en vue d'assurer le développement à la base. Et à Kinshasa, l'atelier s'est tenu pour mettre en place une stratégie qui doit permettre le transfert des compétences, n'est-ce pas, des provinces dans différentes matières, comment ils doivent gérer les ressources, comment doivent-ils gérer ces ressources humaines, les ressources financières, tout cela, c'est pour assurer leur autonomie et assurer le développement. Pensez-vous que toutes ces stratégies peuvent amener l'autonomie des gestions des provinces? Nous en parlons avec vous. Comme je le disais, on aura Makolo Jibikilaï dans cette émission, qui est le coordinateur national de la cellule technique d'appui à la décentralisation. Mais vous avez aussi un point de vue, vous avez un commentaire par rapport à cette démarche dans la décentralisation, vous pouvez le faire également, comme Théodore qui est en Boujimaï au Kassai oriental, qui est avec nous sur les antennes. Bonjour Théodore.
Bonjour Monsieur Théodore.
Vous voyez, depuis les élections de 2006, on a eu 5 ans avec la première expérience par rapport à la décentralisation, avec les institutions provinciales. Vous avez vu comment ces institutions ont-elles fonctionné? Oui. Allez-y.
Oui, l'autonomisation de la gestion des provinces dans notre pays, pour se construire. Les choses ne peuvent toujours pas bien marcher. Vous savez, ici au Congo, à part les Katanga, les Bas-Congo et la ville de Kinshasa, la gestion de ces provinces n'a pas subi beaucoup de tracasseries administratives de la part des pouvoirs centraux qui n'a pas respecté et privilégié les retenues de 40% pour les provinces. Il y a eu même d'autres provinces qui n'ont pas profité l'article dans la Constitution, l'article 189, qui leur donne l'occasion, entre par exemple des provinces ou plusieurs provinces, de créer un cadre d'harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences. À la place, c'est ce qu'ils ont fait. disons, privilégier les conflits, les limites des terres et consorts. Bon, depuis la décentralisation en question, les choses ne tournent pas toujours bien. Vous voyez, par exemple, à la DGI, il est dit bien que pour les PME, les petites et moyennes entreprises, dont leur chiffre d'affaires est de 10 000 $ en descendant, celles-là doivent aller déclarer à la province. Mais jusqu'à ce jour, ils ne sont pas encadrés ni par les gouverneurs, ni par les assemblées provinciales. Ces gens continuent encore à payer à la DGI pour envoyer l'argent à ces personnes. Aujourd'hui, nous avons le service de l'IPMA qui a cédé la vente de la patente à la province. Il y a le service de la DGI qui a cédé le retenu locatif, les impôts fonciers à la province pour remonter et puis donner à la province la les moyens de sa politique. Mais nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup, beaucoup de taxes qui la province gère. Mais la population attend de ces taxes une contrepartie parce que nous devons sensibiliser les contribuables à payer, à pour qu'en retour, ils puissent recevoir les contreparties. Voilà, pour terminer, pour moi, la province devrait ouvrir un compte à la Banque centrale à guichet unique et regrouper les secteurs d'activité commerciale, transport et exploitation minière et concert à payer. Et comme ces services sont nombreux, il faut désigner un seul service qui doit récolter tout cet argent et tout verser à la banque, guichet unique. À ce moment-là, ça va permettre, même s'il y a l'audit, s'il y a les députés réels, vraiment les vrais députés réels de lui, qui doivent aller sur le contrôle au gouvernement provincial, c'est à partir de ces comptes-là, ils doivent connaître les chiffres, combat, c'est sorti combien, ils étaient alloués à quoi. Voilà le fait comment on doit gérer une province et pour créer une bonne gouvernance même au niveau de la province.
Théodore, merci beaucoup. Vous êtes à Karenga, vous êtes en Bujimayo, Kassai Oriental. Vous avez fait voir qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour l'effectivité de la décentralisation, en partant bien sûr de l'article 54, n'est-ce pas, de la loi sur la libre administration des provinces. Vous avez dit que la part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40% comme la loi l'a dit, elle est retenue à la source, mais on n'a pas pu mettre cela en pratique pendant toute cette période, mais aussi on est resté dans le système de la rétrocession. Des fois les fonds qui n'arrivent pas à la hauteur de l'enveloppe que les provinces doivent recevoir, mais vous insistez beaucoup pour qu'on puisse définir clairement qu'est-ce qui doit revenir à la province, qu'est-ce qui doit revenir n'est-ce pas au gouvernement central. Mais pour les provinces, vous proposez qu'il y ait un guichet unique au niveau de la Banque centrale, au-delà de multiplicités de services de l'État qui perçoivent, n'est-ce pas, les taxes impôts par rapport à la province, que tout soit versé à un seul guichet unique. Comme ça, on pourra faire un audit contrôlé et faciliter, bien sûr, la tâche aux provinces de pouvoir travailler sans beaucoup de difficultés. Merci beaucoup, Théodore. Nous avons Aristote qui est à Boutembo, au Nord Kivu. Bonjour, Aristote.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour.
On vous écoute, Aristote, par rapport au transfert des compétences envers les provinces et surtout comment on peut amener ces provinces à l'autonomie de gestion, bien sûr, de leurs ressources.
Oui, bonjour. Merci pour m'avoir accordé la parole. Moi, je voulais dire par rapport à cette décentralisation. D'après moi, je vois que c'est une chose qui est d'accord, qui est encore irréalisable. Pourquoi je dis ça? D'après moi, je pense qu'on devrait commencer par voir la potentialité de chaque milieu. C'est-à-dire qu'on peut partager par province, mais d'abord, dans la province aussi, il y a des villes, c'est la même façon qu'il y a des territoires. Et chaque milieu, chaque territoire, chaque ville a ses potentialités. Et ces potentialités-là devraient pouvoir profiter pour la réalisation des chantiers, soit pour la route. Chaque besoin devrait être réalisé à partir des potentialités de chaque milieu. Prenons par exemple dans la province du Nord Kivu, que je maîtrise au moins. La province du Nord Kivu a au moins les six territoires, y compris les trois villes telles que Boutembo, Beni et Goma. À chaque ville, à chaque territoire a bien sûr ses potentialités. Et cela devrait maintenant aller de pair avec la réalisation. Donc, on pourrait d'abord partir des ressources de ces territoires, de chaque ville, et c'est après ça qu'on devrait maintenant voir, parce que même si en fait on fait la rétrospective de chaque de 40% là, mais quand ça va arriver dans la vie au chef lieu de la province.
Voilà. Oui, Aristote, votre ligne téléphonique se détériore, mais on retient l'élément clé dans votre intervention. C'est qu'il faut d'abord aller sur une étude par rapport aux potentialités de chaque territoire, de chaque ville, de chaque localité dans une province, voir quelles sont les ressources que dispose cette province et partir, planifier à partir de ces ressources-là. Mais vous avez aussi pensé qu'il faudrait la mise en commun des ressources qui peuvent être des parts et d'autres des provinces. D'ailleurs, la loi, l'article 50 parle des taxes d'intérêt commun qui sont constituées des taxes spéciales de circulation routière. Les intérêts communs, bien sûr, entre les provinces, il faudrait voir comment les provinces peuvent parvenir, n'est-ce pas, à exploiter et ensemble avoir ces intérêts communs. C'est ça même l'objectif de cet atelier, comment on peut définir clairement ces objectifs, ces stratégies pour permettre à ce que les provinces puissent se sentir vraiment autonomes, puissent parvenir à gérer mieux leurs ressources. Mais on aura plus de précisions avec notre invité. Merci beaucoup, Aristote Deboutembo. Nous avons Freddy Kitakindou, Saint-Guy Jean ici à Kinshasa. Gardez la ligne, messieurs, nous allons vous accorder la parole, votre point de vue par rapport au transfert des compétences vers les provinces et surtout comment ces provinces peuvent assurer leur autonomie de gestion.
Le Centre national de correction de l'examen d'État nous ouvre ses portes.
Ici, je suis au centre de déclinement avec vous. C'est la porte d'entrée de matières provenant des 30 provinces éducationnelles que compte notre pays.
De la réception des mâles au scalage, en passant par le dépouillement des enveloppes, une grande équipe se mobilise pour la correction des items.
Je travaille avec 60 opérateurs, inspecteurs et agents réunis pour la tâche.
Pour en savoir plus, on se retrouve ce samedi 21 juillet à 15h sur Radio Capi. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Freddy, vous êtes à Kindou dans le Maniema. Bonjour Freddy.
Oui, bonjour Radio Capi, c'est Freddy Mayeng de Kindou Maniema.
On vous écoute.
Merci
Freddy.
Beaucoup pour les choix de ce sujet. Nous avons remarqué que les provinces actuellement n'avancent plus. Je ne suis pas d'accord avec le premier intervenant qui a dit que nous sommes dans un pays post-conflit. Post-conflit jusqu'à quand? Il faut prendre combien de temps pour que nous quittions le post-conflit là? Je pense qu'il y a dans notre constitution des dispositions qui seulement il faut respecter pour que les provinces puissent auto-prendre en charge, pour que la décentralisation soit réellement effective. Et ces dispositions-là sont, par exemple, l'article 175 de la Constitution, qui parle de la retenue à la source de chaque province, de recettes de chaque province, alors que la conférence des gouverneurs, je ne sais pas avec quel statut juridique, c'est pas bon, la conférence des gouverneurs a préféré remplacer, n'est-ce pas, la retenue à la source par la rétrocession des 40%. Maintenant, la question qu'on se pose, cette rétrocession se fait par rapport à quoi? Comme les prédécesseurs l'ont déjà dit, les provinces ne produisent pas de la même manière. Alors que chaque province produit ce qu'elle sait qu'elle produit, mais quand on rétrocède, il peut arriver qu'il y ait une province qui a plus produit et rétrocédé les 40%. Je ne sais pas s'il s'agit du 40%. Des montants que toutes les provinces ont versés dans la banque centrale, où il s'agit de 40% de l'argent que la province a produit. Vous comprenez qu'il y a l'opacité là-bas. Après, on a dit pour que la décentralisation soit effective, il faut que l'on prenne en compte, que l'on pratique la retenue à la source de 40% de chaque province. Ça va permettre à la province de s'auto-prendre à la charge et supprimer carrément la rétrocession. C'est la rétrocession qui nous amène à ça. Alors, en plus de cela, il y a encore dans la constitution la caisse de péréquation. Il faut pratiquer la caisse de péréquation. Si vous savez que les provinces ne produisent pas de la même manière et qu'il faut que tout va et tout aille au niveau du gouvernement central et pour suppléer aux provinces qui ne produisent pas et aux grands investissements des provinces qui ont une faible production. il faut carrément appliquer la caisse de péréquation. Ça, c'est aussi constitutionnel.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Freddy. Voilà, merci, Freddy. Vous avez expliqué avec beaucoup de précision. Voilà, vous avez expliqué avec beaucoup de précision. Pour revenir, parce que vous avez la question évoquée par rapport au, à la conférence des gouverneurs. Vous savez qu'il y a des gouverneurs qui avaient pensé que si on doit passer directement à la retenue de 40%, il y a des provinces qui ne pourront pas se recouvrir parce que toutes ne produisent pas de la même manière. Vous l'avez dit, leur contribution au niveau du budget national n'est pas égale. Il y a des provinces qui ont une forte activité économique. On a parlé du Katanga, du Bas-Congo, de la ville province de Kinshasa, qui ne pourront pas, par exemple, avoir le même 40% comme le Maniema, le Bandundu, le Kinshasa occidental et d'autres provinces. Il s'est posé un problème et les gouverneurs avaient souhaité d'abord d'aller avec le système de rétrocession jusqu'au moment où on verra comment équilibrer cela. Mais vous insistez beaucoup sur le respect des textes, parce que cela est déjà prévu par la Constitution. Il faut y aller, il faut que les provinces puissent se retenir à la source, n'est-ce pas, les recettes à caractère national, qu'ils soient versés directement dans leur compte. Et pour les provinces qui ont des revenus, qui n'ont pas assez de moyens, et vous dites qu'il faut recourir à la caisse des péréquations, où ces provinces peuvent être soutenues, parce que cela est déjà prévu par la Constitution. Vous pensez qu'il faut respecter les textes comme cela est prévu. Merci beaucoup, Freddy Dekindou, pour toutes ces précisions. On revient ici à Kinshasa avec Tengi Jean. Vous êtes avec nous. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, Pierrot. Bonjour, parole auditeurs. Merci de m'avoir accordé la parole.
Vous avez suivi, Tengi, notre ami Théodore de Mbujima qui a parlé d'un pays post-conflit, mais Freddy n'a pas été d'accord. Il dit jusqu'à quand on va être un pays post-conflit. Combien de temps faudrait-il pour partir de ce statut d'un pays post-conflit? Lui pense que le problème, c'est de respecter ce que la Constitution dit par rapport aux 40% retenus à la source par rapport à la caisse des péréquations, qu'on pourra équilibrer et qu'on permettra à ce que les gens sentent les bienfaits de la décentralisation. Entre les deux points de vue, où est-ce que vous vous situez, Cindy Jean?
Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Je soutiens quand même la dernière hypothèse que mon ami venait d'avancer pour décider que jusqu'à quand va rester dans les pays pour ces conflits. On était déjà quand même dépassé plusieurs années. Moi, je ne sais pas que ça, c'est toujours resté dans la réalité. Alors, la retenue de 40% à la source, je suis d'accord. Au lieu d'arriver sur la tête, tout ça, bon. Je suis d'accord qu'on fasse la retenue au niveau de la source. Mais il y a un problème réel. Même si aujourd'hui, nous avons encore les 11 provinces, est-ce que chaque province a déjà au moins le minimum pour se prendre en charge? Je ne pense pas. Pour les infrastructures, ainsi de suite. Alors, vous prenez par exemple la grande province comme la province orientale, où les problèmes de route se posent encore. Où on peut citer seulement quelques coins où les avions atterrissent. Dans certains territoires, dans beaucoup de territoires d'ailleurs, il n'y a même pas de certains aéroports où les petits portiers peuvent atterrir. Nous prenons par exemple les territoires de Wamba dans la province orientale où vous avez de l'or, vous avez des diamants, il y a même du pétrole, il y a tout. Mais c'est comme c'est enclavé. Il n'y a qu'une seule route seulement qui fait que c'est là, vers Wamba, mais l'or qui est produit là-bas artisanalement sur place dans les territoires de Wamba, ça profite à qui? À personne. Sinon, à quelques autorités, je ne sais pas moi, qui se connaissent. Alors comment cette partie-là de la République peut contribuer pour le développement ou disons pour la retenir à la source? Parce qu'il n'y a pas un programme systématique qui permet à ce qu'on puisse vérifier qui produit quoi et quelle est la part de l'État et quelle est la part qu'on peut retenir à la source pour développer le milieu. Donc, c'est d'abord le problème de voir est-ce que les provinces sont à même de le faire. On peut peut-être aller graduellement, c'est-à-dire les provinces où ils ont déjà atteint un niveau quand même élevé de non seulement de croissance mais de développement, on peut déjà appliquer là-bas, mais les autres provinces. Faible, à faible revenu, on peut encore les aider et tout en leur confiant la responsabilité de leur commerce, c'est-à-dire les encourager à se prendre aussi en charge, comme ça la production de ces secteurs-là peut les permettre un jour à être au standard des autres provinces.
Jean, mais vous êtes posé un problème sérieux qu'il faudrait peut-être aller progressivement. Les provinces qui ont assez de moyens, assez de revenus, peuvent expérimenter la retenue de 40%. Et vous pensez que les provinces qui ont des problèmes peuvent encore vivre de la rétrocession? Est-ce que vous n'avez pas peur là qu'on puisse avoir un développement à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on ait des populations qui bénéficient plus que d'autres?
Il y a cette peur-là certainement, puisque comment vous pouvez
dire que par exemple la province de Mandoussi se prend totalement à charge alors que la province de ça. On ne peut pas comparer Bandoulou, bien sûr c'est en deux vitesses, bien sûr. Je suis d'accord, mais il faut, je reviens, il faut aller graduellement.
Mm-hmm.
Alors peut-être prendre d'abord les priorités de chaque province. Et non nous dire comme nous avons à un moment donné que bon, tout est prioritaire à l'ESC. Non, non. Il y a toujours une priorité par rapport aux autres priorités. Alors prendre d'abord ce qui est à tête, à suivre, voir les restes des espaces pour que bon, qu'on arrive quand même à un standard équilibré.
Merci. Merci beaucoup. Jean-Saint-Guy de Kinshasa, vous êtes pour la retenue à la source, bien sûr, des 40% comme le prévoit la Constitution et d'autres textes juridiques, mais vous pensez aussi qu'il serait mieux pour l'aider aussi les provinces à faible revenu. C'est là que vous avez raison, Frédéric de Kindou, qui pensait qu'il faut aussi mettre en pratique la caisse de péréquation qui peut permettre à ce qu'il y ait un équilibre, n'est-ce pas, entre les provinces. Mais il s'est posé un problème avec la rétrocession. Beaucoup, vous avez suivi les gouvernements provinciaux, quand on a eu avec vous à faire des émissions d'évaluation des institutions provinciales, plusieurs gouvernements provinciaux sont plaints qu'au niveau même de la rétrocession, il se pose un problème. Une province qui devait en principe recevoir, par exemple, 5 milliards de francs congolais et qui n'en reçoit que 2,5 ou 3, c'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement central, il n'y a pas la totalité de la rétrocession qui arrive. Cette récession qui arrive aussi en province, il se pose des problèmes pour les entités qui doivent aussi recevoir la part. Il y a eu des accusations à gauche, à droite, vous l'avez déjà suivi plusieurs fois dans nos émissions. Mais alors, vous pensez qu'il faut mettre de l'ordre dans tout cela et parvenir à permettre à ces provinces de fonctionner sans difficulté. Merci beaucoup. Nous avons Ernest qui est à Matadi dans la province de Bakongo. Bonjour Ernest.
Bonjour Seigneur.
C'est Pierrot et Amélie aujourd'hui. Ernest, on vous écoute par rapport à tout ce point de vue sur l'autonomie des gestions des provinces et leurs compétences. Comment on peut parvenir à réussir tout cela? L'atelier a défini les lignes de conduite. Comme l'a dit aussi Saint-Guigeon, qu'il faut y aller graduellement. C'est la stratégie même adoptée. Il faut avancer petit à petit jusqu'à ce transfert complet de compétences. Quel est votre point de vue?
Merci bien. Je pense que la Constitution qui a parlé de la retenue à la source de 40% n'a pas placé de bémol. Et comme disent les députés, c'est que votre non soit non et que votre oui soit oui. Ce qui vient après est viable. Tout ce que vous avez fabriqué à gauche, à droite pour chercher comment organiser la retenue de cet argent-là, c'est vraiment des faux clients. On a peur que certaines provinces sont en avance, qui risquent de peut-être encore plus en avance que les autres. C'est pourquoi on avait prévu la caisse de péréquation.
Mm-hmm.
Nous pensons que ce n'est pas intéressant. Il faut retenir la source de 40% à la source. Mais pourquoi comment on s'est posé mille et une questions? 40% de quoi? De ce qui passe par les ports ou de tout ce qu'on pourrait dans cette province? Or, à l'époque, je sais, il y avait le débat. C'est le fait qu'on va le loulou. Qui est au passage qui vient de donner les choses dessus? Comment on va retenir les 40% à la semaine? Il y avait une question technique qu'on a posée. Mais nous pensons qu'on ne doit pas hésiter d'accepter le développement des provinces en avance. Que ceux qui sont en retard se contentent de la caisse de péréquation. Et que les 40% soient vraiment retenus. C'est pour ça que moi je pensais que le budget national serait la synthèse des budgets des provinces. Or, à ce moment, on constate que les provinces présentent un budget, le gouvernement provincial national présente un budget, mais au niveau des répartitions, ça pose problème. Donc, nous proposons que les gouvernements provinciaux c'est des phases et c'est des facteurs pour retenir les 40% à la source telle qu'il y a à la Constitution. Pas des rétrocessions. Rétrocessions, c'est le système de l'unitarisme. Maintenant, nous sommes en voie de fédéralisme et de décentralisation. Qu'on applique les principes et que les provinces qui peuvent être en avance, mais le moment qui est là, passe.
Au
lieu de créer les autres, parce qu'il y a à gauche, à droite, il y a des problèmes. Donc voilà
ce que je pensais. Merci, Ernest. Voilà, vous pensez, Ernest, qu'il faut rester dans la logique, n'est-ce pas, de respect des textes, parce que la Constitution prévoit déjà qu'il y ait cette retenue à la source des 40%. Il faut l'appliquer tout de suite et puis créer la caisse de péréquation. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un équilibre prévu par les constituants en pensant que si ceux qui sont en retard, ceux qui n'ont pas assez de revenus, peuvent recourir à la caisse de péréquation. Vous avez demandé, il s'agit de quoi au juste? Si nous lisons l'article 55 de la loi portant en libre administration des provinces, elle dit ceci: au terme de la présente loi, sont à caractère national les recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, ce que vous payez à la DGRAD, ça va, n'est-ce pas, sur le plan national, mais il y a aussi les recettes des douanes et assises, les recettes provenant des impôts recouvrés sur les grandes entreprises des pétroliers producteurs, ainsi que les autres impôts pouvant être perçus à leur lieu de réalisation, qui sont bien sûr versés dans la caisse nationale et directement pour les comptes de province au niveau de la banque centrale, on y verse les 40%. Voilà les recettes. Mais il faudrait se mettre d'accord, n'est-ce pas, sur toutes ces nomenclatures, qu'est-ce qui doit être perçu au niveau de la province, qu'est-ce qui doit aller, il y avait tous ces problèmes de tout le transit, par exemple, de ceux qui font des affaires partant du Katanga vers le Kasaï, où est-ce qu'ils vont pouvoir payer leur impôt et quelle est la province qui va recouvrer. Toutes ces questions devaient être résolues pour que tout soit clair et qu'il n'y ait pas de difficultés. Merci beaucoup, mais on retient une chose pour vous, c'est qu'il faut respecter l'esprit de la Constitution tout de suite au lieu de chercher des faux-fuyants. Nous revenons ici à Kinshasa avec vous, Dadi. Vous êtes avec nous. Bonjour, Dadi.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute, Dadi.
Oui, ma proposition est la suivante. Moi, je pense que cette question est une question éminemment politique, dans la mesure où, vous savez, nous avons d'une part les autorités provinciales et les autorités centrale. Et une fois les autorités centrales ne se retrouvent pas dans ce qui se passe dans toutes les provinces, moi je pense qu'ils ne vont pas accepter à ce qu'on puisse appliquer ce principe de retenir à la source. Mm-hmm. Nous avons une constitution que nous tous, nous avons eu à voter par référendum, mais si cette constitution n'est pas respectée, moi je pense que les premiers responsables ce sont nos dirigeants au niveau central. Pourquoi? Parce que vous savez que dans nos provinces, à chaque fois qu'il y a des autorités, ce sont les autorités centrales qui envoient, par exemple, les gouverneurs pour qu'ils soient votés par les députés. Et ces gouverneurs n'acceptent pas à respecter la Constitution. Pour une certaine raison, que s'ils acceptaient à respecter la Constitution, au niveau central, ils seront vite renvoyés. Moi, je prends le cas du gouverneur Moïse Katumbi qui avait parlé de la retenue à la source. Mais où est-ce qu'il en est arrivé à la proposition? Je pense vite, on avait pris cette décision. Et lorsque la Constitution a accepté assez qu'on puisse avoir la retenue à la source, la première des choses à son c'est d'appliquer la loi. Mais pourquoi les autorités au niveau national n'acceptent pas? Moi, je pense la retenue à la source de 40%. Prenons par exemple, si chaque province retenait la source 40% et qu'on envoyait 60% au niveau national, ce sont les autorités nationales qui vont, à partir de ces 60%-là, commencer maintenant à épauler les provinces qui seront à difficulté financière. Donc, ça ne posera pas un problème. Mais je pense que c'est une question éminemment politique. C'est-à-dire, vous savez, comme tout le monde, que l'argent de la République n'est pas géré comme étant l'argent de l'État. L'argent est plus géré comme si on gérait une entreprise privée. Donc, c'est ça qui est vraiment
la base
à la
problème.
Base
merci.
De la mauvaise gouvernance du dans voilà. Notre République.
Merci beaucoup, Dadi. Vous pensez que le problème n'est pas au-delà de toute question technique, mais c'est plutôt politique? Il y a les autorités au niveau central pensent que si les provinces parvenaient à retenir ces 40%, ils ne pourront plus avoir la même mise sur les ressources. Mais là, vous faites allusion aux intérêts individuels. Et qui est autant mieux avoir tout à Kinshasa et avoir de manigances dans la rétrocession. Et vous pensez que beaucoup de gouverneurs ont été placés là où ils sont, aussi délégués par Kinshasa, et ces gouverneurs ne peuvent pas tous accepter cette idée de la retenue. de peur d'être mis à mal par ceux qui le soutiennent. Et vous pensez, comme les autres auditeurs, qu'il faut respecter la Constitution et retenir les 40% et ravitailler la caisse de péréquation, comme la loi le dit, et tout cela va permettre à ce qu'on puisse résoudre le problème. Merci beaucoup. Nous avons Martin Kietati Sangani et Simon Amatadi, 081-890-43-39. 081-890-43-39, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission et aussi nous donner votre proposition sur l'autonomie des gestion des provinces, les transferts des compétences, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir tout cela et permettre à ce que les provinces puissent assurer le développement à la base. Votre réaction et votre point de vue sont les bienvenus dans cette émission.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Martin, vous êtes à Kisangani en province orientale. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je voudrais préciser que je ne suis pas Martin, c'est plutôt Marcel Zuma à Kisangani.
Voilà, excusez-nous, c'est Marcel à Kisangani. On vous écoute, Marcel. Vous avez suivi les uns et les autres, votre point de vue.
Ok, merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord, avant d'aborder cette question en fond, commencer par préciser, quand vous lisez les articles 201, 202, 203 et 4 de la Constitution, vous remarquerez par là que le constituant originaire ou le législateur a bien précisé les compétences qui peuvent être exercées exclusivement par le pouvoir central, celles qui peuvent être exercées en concurrence entre le gouvernement central et les provinces, et celles qui doivent être exercées exclusivement par les provinces. Alors, nous voyons aujourd'hui et nous remarquons, il y fallait d'abord à ces dispositions-là qu'une loi organique puisse fixer de quelles compétences doivent être exercées en concurrence ou exclusivement par les provinces ou soit par le gouvernement central. Et dès lors, cette loi organique n'a jamais été pris pour préciser. C'est comme ça que vous remarquerez qu'il y a une affaire de cafouillage, permettez-moi le terme, le flou en ce qui concerne les provinces et le pouvoir central. Tantôt, le pouvoir central veut se mêler dans toutes les compétences qui peuvent être exercées par les provinces, tantôt, il veut que tout soit géré par lui-même, c'est-à-dire le gouvernement central. Et là, ça nous laisse dans un embarras. Et quant à ce qui concerne la retenir à la source, à ce qui concerne la décentralisation, je crois que la Constitution a été claire, donc le législateur a été clair. Quand le législateur consacre une disposition constitutionnelle, il n'y a pas de discret, ou pas c'est pour des choix, ce n'est pas des natures ou conjoncturaire à faire des négociations entre le pouvoir central et les provinces pour dire que voilà, compte tenu de certaines circonstances ou pour de certaines raisons, et permettez que vous puissiez mettre à l'écart ce que le législateur a prévu et pour, au lieu de l'appliquer, les fiscaux, pratiquons tel ou tel autre système. Et cela dans le cadre de la rétrocession, qui est une violation flagrante. Et la Constitution elle-même est claire quant à ça. Elle prévoit qu'une fois le gouvernement arrive à poser ou à aller à la contre d'une disposition constitutionnelle, doit tout simplement positionner en cascade. Mais chez nous, on en fait des valeurs. Et moi, personnellement, en tant que légaliste, je suis contre la rétrocession. Et contre la péréquation, puisque le législateur, en élaborant ou en consacrant la retenue à la source, avait tenu compte de toutes les réalités sociales de la République démocratique du Congo et avait jugé bon de consacrer la retenue à la source. Mais si le contexte actuel, le gouvernement constate qu'il y a nécessité de recourir à la rétrocession, il ne faut pas laisser la disposition selon laquelle l'on doit procéder à la retenue à la source, la procédure est là, la démarche est loyale est là, il est question seulement de demander ou soit de modifier ou de réviser la disposition en question pour la remplacer avec la rétrocession, et là, ça sera une démarche légale. Et laisser la retenir à la source dans la Constitution, et dans la pratique, qu'on recourt à un autre système, vous remarquerez que c'est une violation.
Voilà.
Même aujourd'hui, dans les provinces, les provinces, par rapport aux entités territoriales décentralisées, les secteurs et les chefs-d'œuvre, le pays qui est rétrocédé aux provinces, les provinces, à leur tour, pour qu'elles rétrocèdent aux ETD, ça pose problème. J'ai été la fois passée dans les banques.
Merci.
On a suivi, Marcel,
vous avez vraiment expliqué clairement, je peux retenir quelque chose de très important, vous avez dit, ou soit nous gardons le principe de la rétrocession, ou soit c'est le principe de la retenue à la source, vous considérez que c'est une violation, le fait qu'on puisse ne pas retenir à la source comme le prévoit la loi organique, et puis au même moment où nous avons la Constitution qui dit qu'il faut retenir les 40%, mais au même moment nous disons qu'il faut rétrocéder, ou soit on doit garder l'un et abandonner l'autre. Mais vous avez évoqué cette situation de la loi organique qui doit accompagner les transferts de compétences, qui sont d'ailleurs définis clairement dans plusieurs articles de la Constitution, comme vous l'avez dit, mais là, parce qu'il fallait un arsenal juridique qui doit accompagner cela, rappelons que nous avions déjà trois textes de loi promulgués déjà. Il y a la loi organique numéro 08 du 31 juillet 2008 qui porte principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Nous avons la loi 08/15 du 7 octobre 2008 qui porte modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs, et la loi organique 98 du 7 octobre 2008 qui porte composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Ce qui veut dire que sur la base des principes, il y a déjà ces lois qui définissent clairement ce qui doit être fait. Mais votre idée, c'est qu'on doit revenir au respect de ces textes, ce qui puisse permettre à ce que les choses puissent avancer, ne pas se cacher derrière les intérêts politiques pour ne pas rendre effective, n'est-ce pas, la retenue, tout comme les autres modalités qui sont prévues par les textes juridiques. Merci beaucoup, Marcel de Kisangani. Nous avons Simon qui est à Matadi dans la province du Bas-Congo. Bonjour, Simon. Simon, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Simon.
Oui, en fait, le débat est vraiment intéressant parce que c'est du vécu et ce sont des choses que nous vivons.
Mm-hmm.
C'est que là, j'ai fait un peu dans ma qualité d'historien et enseignant. Je voulais un peu faire retour en arrière pour savoir pourquoi on est arrivé à faire ou à penser à la décentralisation. En fait, la décentralisation, c'est un moyen de rapprocher l'administré de l'administrateur.
Mm-hmm.
Parce qu'on a vu beaucoup d'écarts qui s'est créé entre quelqu'un qui habite très, très, très loin dans un village qu'on ferait de l'autorité. C'est pourquoi on a pensé à la décentralisation. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous parlons de transfert de compétences en province. C'est ce qui a été l'objet de l'atelier où indirectement, d'ailleurs, j'ai eu des informations. En fait, la décentralisation dans sa partie du transfert de compétences est vraiment passée à côté par manque de stratégie très simple. Souvent, nous voulons un peu faire des choses en grand, alors qu'on peut faire des petites choses et puis ça pouvait marquer. Alors, parlons transfert de compétences. Vous savez, ces compétences, telles qu'elles ont été prescrites par la Constitution, ils ont commencé, on a placé les ministres, les députés et consorts. Mais il y a les ministères, c'est-à-dire qui ne devraient être gérés que par la province. Et pourquoi ces ministères devraient être gérés? Par exemple, nous prenons le cas de l'enseignement. Un enseignant qui habite Balari dans les fin fonds, qui venait d'être engagé dans cette école parce que dans l'enseignement, il n'y a pas de vide. pour compléter un vide, pour qu'il soit engagé. Le dossier doit parcourir beaucoup d'étapes pour que ça arrive à la division provinciale. Et la division provinciale va monter à King, c'est copé qu'on sort. À Kinshasa, on compile tous les problèmes des différentes provinces. Vous voyez combien de temps ça prend et cet enseignant reste dans des bénévolats. Pourquoi on a voulu rapprocher ça? Alors, les problèmes qui se posent, il est simple. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas pu retenir les 40%, on a rétrocédé, on rétrocède? Et la question qu'on se pose, ce montant-là de rétrocession, c'est calculé comment et c'est réparti comment dans chacune des provinces pour mettre à l'écart les 40%. Alors qu'il fallait faire ceci, comme il n'y avait pas 40%, pour moi, je considérerais que les ministères provinciaux devraient être aussi supprimés, parce que les ministres provinciaux font presque la même chose avec les chefs de division. On remet les compétences des ministres provinciaux aux chefs de division pour que la petite rétrocession dont nous connaissons, peut-être, je crois, c'est ici au Bas-Congo, je crois, c'est moins de 2 millions de dollars. Je crois que c'est 1 500 000. Alors, ça peut servir. On renforce les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales qui sont faites des organes de contrôle. Et alors, dans ce moment-là, vous allez un peu voir l'équilibre et que les montants, les petits montants de rétrocession pouvaient servir à faire ce qu'il fallait peut-être faire et puis faire impacter.
Voilà. Merci beaucoup Simon, vous posez un problème réel. On voit aujourd'hui avec tout ce qu'on peut avoir comme pléthore de fonctionnaires au niveau de la province, si nous prenons les ministres provinciaux, 10 ministres provinciaux avec leur cabinet, tout ce qui peut les accompagner, et vous pensez que ce qui est rétrocédé n'est pas à mesure de pouvoir résoudre le problème, autant mieux supprimer le ministère provincial, garder les chefs de division, comme ça le peu de moyens qui sont rétrocédés à la province peuvent permettre à ce qu'on puisse bien gérer, mais aussi, comme l'a dit notre ami Marcel de Kisangani, à ce qu'il y ait aussi une part qui revient aux entités territoriales décentralisées qui doivent recevoir cette part de la rétrocession, malheureusement qui arrive aussi difficilement, parce qu'on risque d'avoir beaucoup d'institutions et peu de ressources, et il va se poser un problème. Mais tout cela doit être accompagné d'une stratégie qui a été bien sûr décidée, qu'on pourra bien publier et vulgariser avec le temps pour permettre à ce que tout le monde comprenne comment ces transferts des pouvoirs, des compétences va être effectif. Merci beaucoup Simon. Nous avons Léon qui est à Béni. C'est Honor qui vous. Bonjour Léon.
Et bonjour Thierry et Lamézi, bonjour aussi à notre invité. Par rapport à ce débat d'aujourd'hui, moi je dirais que la décentralisation, bien sûr, c'est un terme direct dans les documents, mais ici en RDC, ça pose des problèmes pour que celle-ci soit effective. D'autant plus que les autorités et nos législateurs ont fourni beaucoup d'efforts pour mettre une bonne intention à la vie à la vie de la population congolaise, que nous voulons la décentralisation et nous souhaitons que la décentralisation soit effective pour que le Congo décolle. Mais malheureusement, ce sont des bons textes, mais ceux qui l'ont élaboré n'ont pas le souci de les faire respecter. Vous avez soulevé les trois lois organiques qui sont déjà votées, mais qui ne sont pas appliqués. Mais les citoyens ne se demandent pas pourquoi voter des lois qui ne seront pas appliquées. Mm-hmm. Il n'est pas une façon de nous injurier que de nous insulter. Permettez le terme. Mais les citoyens s'efforcent toujours de faire sortir des lois du jour au jour, mais qui ne sont pas appliquées. C'est vraiment décourageant. Si vous passez dans des entités territoriales centralisées, comme c'est la commune et la ville, vous allez penser que nous sommes encore dans la dictature de Mobutu, où la commune vivait comme une maison d'une personne privée. Or, c'est l'État qui devait répondre à tous les besoins à travers la retenue à la source. Mais la Constitution, c'est plus très bien que c'est la retenue à la source. Mais on invente encore ce terme
Non, la rétrocession, mais ça arrive comment? Qui qualifie voilà. Tout ça pour que la rétrocession arrive?
Oui, d'ailleurs, Léon, on a suivi le ministre de l'Intérieur de la province du Katanga, M. Dikanga Kazadi, qui a dit le lundi, on l'avait suivi sur Radio Kapi, sur d'autres médias, après la cérémonie d'ouverture de cet atelier, et il a dit qu'il faut même penser à revisiter le processus de la décentralisation, parce qu'il se pose un problème sérieux, d'abord des préalables, il y a aussi des problèmes de délai, des calendriers, tout cela, il faut le revisiter clairement pour savoir on fait quoi, on va où, qui va faire quoi, dans combien de temps va-t-on faire quoi, pour qu'on parvienne vraiment à vivre cela. Il a même insisté par rapport aux problèmes qui touchent la viabilité des entités territoriales décentralisées, parce qu'il n'y a pas assez de ressources qui suivent. C'est ce que les autres auditeurs sont inquiétés par rapport à ces calculs de la rétrocession, ça va revenir comment, on a vu des gouvernements provinciaux qui se sont plaints, et d'ailleurs, au lieu de recevoir, pour dire peut-être 2 millions de dollars, on reçoit 1 million. Et puis, le gouvernement central reste avec les dettes, si on peut utiliser les termes de la province, après 2-3 mois. On n'a pas fini pour janvier, il y a février qui se pose. Tous ces problèmes doivent être résolus et réglés d'une manière à ce que cela soit effectif. Mais plutôt que cela reste sur papier, comme vous l'avez dit, Léon, vous êtes à Béni. Merci beaucoup. Nous allons écouter Robert qui est ici à Kinshasa. Bonjour, Robert.
Bonjour Radio Kapi.
On vous écoute.
Oui, moi je pense que le problème au pays, c'est d'abord et toujours le manque de respect des textes que nous-mêmes nous mettons sur pied.
Mm-hmm.
Et des textes qui pourtant sont clairs et qui peuvent booster l'économie et le développement du pays. En fait, tout a été bien planifié par le Parlement de transition en ce qui concerne la gestion du pays et par rapport à l'option prise sur la décentralisation. Mm-hmm. Et nous savons tous que pour que le fonctionne, il faut d'abord les finances. Les ressources financières sont les mêmes moteurs. Et là, c'est réglé à travers un mécanisme mis en place par la retenue à la ressource de 40% qui pourrait permettre aux provinces d'avoir les ressources possibles. Mais le Parlement a également vu effectivement que toutes les provinces n'avaient pas la même envergure socio-économique. Donc, il fallait en ce moment-là faire agir ce que nous appelons la solidarité nationale. Mais cette solidarité nationale, il fallait lui donner un contenu. Et ce qui a été fait à travers le mécanisme de péréquation qu'il fallait mettre en place pour permettre en fait que les pays ou les provinces qui ont plus de ressources puissent donner une partie de ces ressources-là à celles qui n'ont pas assez de ressources, notamment qu'elles se recadrent un peu. Alors, mais en plus de cela, il ne suffit pas de voir à la péréquation. Il fallait également créer une structure qui pourrait permettre en fait que les projets de développement puissent avoir une certaine orientation objective. Sinon, on risquerait de voir le pays construire des ponts là où il ne faut pas, ou dans des provinces qui n'ont pas de moyens, donc il fallait agir dans ce sens-là. Donc, c'est ce qu'on a testé également avec les conseils économiques et sociaux. Alors, et en plus, c'est le troisième atout qui était prévu par la Constitution ou par le Parlement de transition, c'était de revoir la nomenclature des taxes sur les impôts et taxes. Parce que, en fait, les compétences ayant été cédées aux provinces, il y a des impôts et taxes qui accompagnent ces compétences-là. Et là aussi, le Parlement n'a pas fait ce travail-là de revoir la nomenclature des taxes. Et le gouvernement central a gardé la plupart des taxes, même celles qui relèvent justement de la compétence des provinces. Ce qui fait quand même que les provinces sont toutes asphyxiées.
Mm-hmm.
Alors, on a donné un autre contenu à la solidarité nationale, attendu des provinces nantis. Par rapport à la péréquation, on est revenu sur la rétrocession qui était vivement décriée par le parlementaire de la transition. Parce qu'on a remarqué que dans notre pays, l'autorité qui rétrocède a toujours la main lourde pour signer.
Mm-hmm.
Et ça crée toujours des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les choses marchent? Il y a pas 3 choses à faire. D'abord, la première chose, et ça c'est une urgence, que la caisse de péréquation soit mise sur pied. Qu'on puisse quand même comprendre, elle pèse combien, cette caisse de péréquation. Ça nous donnera des idées. Deuxièmement, il faut que le Conseil économique et social soit mis sur pied pour éviter les sentiments dans le projet de développement à travers le pays.
Et rapidement,
oui, alors, à part cela, il faut revoir urgemment la nomination des taxes pour donner aux provinces les taxes qu'il faut
et de manière à ce qu'elles aient le moins leur politique.
Merci.
Et je termine, en disant que les provinces qui sont dans le Bas-Congo et ont aussi beaucoup de problèmes parce qu'elles ne sont pas, elles ne bénéficient pas de la répression qu'il faut.
Alors, d'une manière équitable, voilà. Merci Robert. Oui, voilà. Merci Robert. On a deux auditeurs pour terminer cette émission. Vous avez insisté pour dire que pour résoudre ces problèmes, il faut l'effectivité de la caisse de péréquation pour qu'on sache qu'elle pèse combien. Le Conseil économique et social, il faut la loi sur la nomenclature, n'est-ce pas, des taxes. Mais qu'est-ce qui doit être perçu par les provinces? On a vu même d'ailleurs le conflit entre le gouvernement central et les provinces. Il y a eu plusieurs réunions ici à Kinshasa. Quand il s'agit de savoir ce que les provinces doivent percevoir, on a vu tous ces tiraillements. Mais vous pensez qu'il faut résoudre les problèmes, mais aussi pour la rétrocession, savoir comment rétrocéder de manière équitable aux provinces qui produisent assez, mais qui ne reçoivent pas d'une manière qu'il faut. On termine cette émission avec Viviane et Pierrot qui est à Tchilenyi.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Viviane, vous êtes à Tikwit dans la province de Bandundu. Bonjour.
Ah, bonjour Radio Capi, bonjour les auditeurs de la radio.
On vous écoute, madame. C'est un réel plaisir de vous avoir sur les antennes par rapport au transfert des compétences vers les provinces. On vous écoute, madame. On tend déjà vers la fin de l'émission. Si vous pouvez les dire en 1 minute et demie, ça peut être possible.
Ok. Je suis vraiment ravie de cette émission. Et je dis que le transfert des compétences au niveau des provinces et des ETD est un problème de la volonté politique. Parce que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, si jamais on laissait les provinces s'administrer librement et les provinces aussi laissent les ETD s'administrer librement, je crois qu'il y aura quelque chose qui peut développer ce pays. Et aussi, il faut qu'on arrive à terminer l'architecture juridique, c'est-à-dire les lois. Parce que quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un, il faut aussi lui donner les finances. Puisque les lois ayant trait aux finances traînent encore, ça sera difficile pour qu'on puisse parler du développement durable au niveau des provinces et au niveau des ETD.
Voilà.
À mon avis, je souhaite que le Parlement puisse travailler dur pour sortir les lois ayant trait aux finances publiques des provinces. Et aussi, qu'on laisse aussi la province libre de se décider en matière qui nous soit devenue par la Constitution.
Voilà, merci madame. Vous avez, pour vous, le mot qui est important, c'est la volonté politique. Il faut qu'au niveau du pouvoir central, qu'on ait la volonté politique de laisser les provinces s'administrer librement, et au niveau des provinces, qu'on puisse avoir cette volonté de laisser les entités territoriales décentralisées s'administrer aussi librement, et avoir l'architecture juridique complétée, toutes ces lois, les nomenclatures, pour savoir qu'est-ce qui doit revenir à la province, laisser tout cela fonctionner d'une manière libre, et on peut atteindre les développements voulus. Merci beaucoup, madame, de ce point de vue. On termine avec vous, Pierrot. Vous êtes à Tchilenyi. Kassai Oriental, bonjour.
Bonjour, c'est Théon Boutoua. Bon, j'avais des observations par rapport à la décentralisation dans notre pays. Je crois que c'est ce système qui, en 2005, a soumis la constitution au peuple pour qu'il puisse voter ça. Et nous avons voté cette constitution-là, croyant que pouvait bien respecter toutes les lois qui sont élaborées dans la Constitution. Mais malheureusement, ils ne respectent pas leurs propres vœux qu'ils ont eux-mêmes élaborés. Donc, nous, peuples congolais, nous sommes déçus de la façon que nous sommes dirigés par le système de gouvernance. Alors, nous disons, pour que la déconstruction soit réelle, il faut d'abord que nos autorités puissent respecter leur propre loi. Parce que les peuples n'élaborent pas les lois. Ce sont ceux qui élaborent ces lois ici et les soumettent au pied de la population. Et nous approuvons ces lois.
Voilà.
Et ça, ils ne respectent pas.
Il se pose un véritable problème. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pierrot. Vous avez dit quelque chose de très important lors de la sensibilisation, la campagne sur la constitution. Beaucoup de personnes ont insisté pour dire que c'est la voie par laquelle le développement va, le pays va connaître le développement avec les systèmes de décentralisation. Mais vous dites, malheureusement, vous êtes déçu. Autant d'années après, vous ne sentez pas ce développement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas respecter ce texte, n'est-ce pas, qui prévoit, voilà, cette décentralisation. Merci beaucoup. Et vous avez interpellé les uns et les autres au respect des textes, n'est-ce pas, qui régissent le domaine de la décentralisation. Nous avons terminé avec ce message de Francis qui dit ceci: la question de la retenue à la source pose autant de problèmes chez nous parce que nos lois, notre constitution, tout cela n'est pas respecté et appliqué sur tous les plans. Tant que cet aspect de la décentralisation ne sera pas correctement appliqué selon l'actuelle constitution, nous aurons de la peine pour parler du développement de nos provinces. Cela relève de l'inexpérience de la gestion des institutions au niveau national et provincial. C'est par laquelle nous terminons cette émission en vous disant bien sûr merci. On a eu des difficultés pour avoir notre invité, M. Makolegi Bikilaï, qui devait être avec nous pour commenter à ce sujet. Lui qui est le coordinateur national de la cellule technique d'appui à la décentralisation. Malheureusement, ça n'a pas été possible en dernière minute, mais nous vous disons merci pour votre attention soutenue et surtout vos commentaires, points de vue qui ont été très bénéfiques pour cette émission consacrée, bien sûr, à la décentralisation dans notre pays.
Allô? 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 Oui. Il ne répond pas?
On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine des paroles aux auditeurs consacré bien sûr à la malnutrition. D'après les résultats définitifs de l'enquête par grâce à indicateurs multiples pour la ville de Kinshasa présenté le mercredi 17 juillet courant, 19% d'enfants de moins de 5 ans à Kinshasa connaissent un retard de croissance dû à la malnutrition, alors qu'au niveau national, ce taux de malnutrition est de 38%. Que proposez-vous pour lutter efficacement contre la malnutrition? On se retrouve demain en postant vos commentaires sur pa@radiocapu.net. Merci à J.R. Lungembo, Soukil Poutou, Jean-Noël Mokondo pour la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngaka. Nous vous disons merci et surtout les programmes continuent sur Radio Capu. Au revoir.